Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'éléments financiers générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis ravi d'être ici avec Jordan aujourd'hui pour discuter des résultats impressionnants de SAP Global pour le deuxième trimestre 2026. Avant de commencer, voici un message important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Maintenant, parlons de SAP Global. Franchement, c'est un trimestre vraiment remarquable pour eux.
Absolument. Je veux dire, 11% de croissance des revenus, c'est solide, mais c'est le chiffre du bénéfice par action qui m'a vraiment frappé. 23% de croissance en EPS? C'est du vrai travail d'optimisation opérationnelle là.
Exactement. Et ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que c'est venu après qu'ils aient finalisé la séparation de leur division mobilité le 1er juillet. Donc, c'est essentiellement comme si l'entreprise se nettoyait elle-même et disait « Regardez, maintenant que nous nous sommes simplifiés, voici ce que nous pouvons vraiment faire. »
Oui, et c'est stratégique aussi. Le PDG Martina Cheung a vraiment mis l'accent sur le fait que SAP Global est essentiellement une entreprise de points de référence. Presque 2/3 de leurs revenus viennent des benchmarks, et maintenant plus de 80% de leurs bénéfices d'exploitation viennent de là. C'est une belle concentration autour de ce qui fonctionne vraiment bien.
C'est un excellent point. Parlons des divisions. Rating a établi un record trimestriel avec une croissance de 17%. L'issuance d'obligations a augmenté de 25% d'une année à l'autre. Mais voici la chose intéressante, une grande partie de cela vient des dépenses d'infrastructures d'IA et des centres de données.
Oui, et cela me plaît parce que cela montre l'exposition de SAP Global à l'une des tendances les plus chaudes du moment. Il voit environ 250 à 300 milliards de dollars en issuance d'hyperscalé pour l'année complète. C'est énorme. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que cela n'affecte pas leur pipeline à long terme. Ils ont 11 billions de dollars en dette notée qui doit être refinancée au cours des 4 prochaines années et demie.
C'est rassurant pour les investisseurs, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils ne construisent pas une maison de cartes. Maintenant, regardons les indices. S&P Dow Jones a établi son 13e trimestre record consécutif. L'AUM des ETF a atteint 6,35 billions de dollars.
Et c'est le chiffre vraiment fou ici. Le Saint-Saëns premier ETF a jamais dépassé 1 billion de dollars d'AUM. C'est un jalon remarquable pour l'industrie, et SAP en est au cœur. La croissance des revenus des indices était de 20%. Ce business est en feu littéralement.
Il y a une chose que je dois mentionner sur le côté de l'énergie, cependant. Seuls 3% de croissance des revenus. Et ils sont honnêtes à ce sujet, c'est difficile là-bas maintenant. Le conflit en Iran, les sanctions, la volatilité extrême du marché.
C'est vrai, mais ce que j'aime, c'est que la direction reconnaît que ce sont des vents contraires cycliques, pas séculaires. Ils s'attendent à ce que la croissance revienne à la plage de 6% à 8% après cette année. Martina a également parlé de DataSanteHawk, une acquisition qu'ils viennent de faire, qui combine leurs données de centres de données avec les modèles de prévision de 451 Research. C'est vraiment intelligent.
Absolument stratégique. Il voit des dépenses de trillions en infrastructures d'IA et en réseaux électriques pour soutenir cela. Maintenant, en ce qui concerne Market Intelligence, c'est là où il y a eu beaucoup de réorganisation. Ils ont créé une nouvelle structure avec 2 lignes commerciales, Kensho Data et Platform, plus Enterprise Solutions.
Oui, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans cet appel. La croissance de Kensho. Nous parlons de 500 clients utilisant les API prêtes pour LLM. C'est en hausse de plus de 70% d'un trimestre à l'autre. Le volume d'appels API a augmenté 5 fois du premier au deuxième trimestre.
C'est fou. Et écoutez ceci, les clients AI croissent 3 fois plus vite en énergie que les autres clients. 60% plus vite en market intelligence. C'est le signal que nous regardons tous. Les entreprises qui adoptent vraiment l'IA gagnent.
Exactement. Mais il y a aussi quelque chose de pragmatique qu'ils disent. Les clients regardent maintenant les coûts des jetons et les dépenses globales en IA. Donc SAP Global adapte son modèle pour que les clients puissent construire avec eux et minimiser réellement ses coûts. C'est raisonnable.
Et en parlant de capital, regardez ce qu'ils font, 7 milliards de dollars en rachat d'actions pour 2026. C'est plus de 5% de leur capitalisation boursière. Ils ont également reçu 2 milliards de dividendes de Mobility et ils vont émettre 2 milliards supplémentaires en dette pour financer davantage de rachats.
Cela montre vraiment la confiance. Un levier brut de 2,7 à 2,8 fois l'EBITDA pour cette année, légèrement au-dessus de leur fourchette cible, mais ils s'attendent à revenir à la normale l'année prochaine. C'est de la gestion prudente.
D'accord, maintenant, le chiffre directif. Croissance des revenus de 6% à 8% sur une base organique en devise constante. L'EPS ajusté entre 17,50 et 17,75 dollars. C'est une croissance à deux chiffres sur toute la gamme.
Et c'est particulièrement impressionnant parce qu'ils ont augmenté la base de comparaison en excluant Mobility. Ils ont renforcé les orientations pour rating et indice rating en hausse d'un point à 5% à 8%, indice en hausse de 2 points à 12% à 14%.
Il y a eu une question vraiment intéressante lors de l'appel concernant la diversité de distribution. Une analyste a demandé si le fait de se concentrer davantage sur Kensho Data et les API nuirait à leur modèle de tarification. Martina a répondu que non, ils maintiennent les relations directes avec les clients, distribuent toujours via plusieurs canaux, et Kensho Lab est devenu un vrai différenciatif.
Oui, et un autre point que j'ai vraiment apprécié était la discussion sur les cycles de vente plus longs dans Market Intelligence avec les grands clients. Au lieu de voir cela comme une mauvaise nouvelle, Martina l'a encadré comme positif, cela signifie que les clients veulent faire plus avec eux et avoir des conversations plus approfondies sur l'IA et la protection de l'API. Ce sont des conversations de base, pas des problèmes.
C'est une façon très généralement positive de voir les choses. Maintenant, en regardant vers l'avant, qu'est-ce que cela signifie réellement pour les investisseurs? D'un côté, S&P Global a un avantage significatif dans les tendances que nous savons durables, indices et benchmarks, croissance de l'IA, private market.
Oui, et Martina a parlé du fait qu'il voit une augmentation des entrées d'AUM dans les private markets. Cela crée une demande accrue de transparence et de benchmarks. Ils ont lancé les S&P Pantra Digital Asset Index, des indices de crédit privé avec Lincoln. C'est du vrai travail de croissance à long terme.
Et d'un point de vue de marge, la discipline d'exploitation est évidente. Croissance des dépenses de seulement 6% malgré une croissance des revenus de 11%. Expansion des marges de 200 points de base. Le DO, Enterprise Data Organization, est en bonne voie pour atteindre 100 millions de dollars en économie de coûts.
Mais il y a un point à faire, Market Intelligence croit à un chiffre unique bas. C'est la division qui a besoin d'un peu plus de dynamique. La réorganisation qu'ils viennent de faire vise vraiment à résoudre cela, se concentrer sur les plus hauts gains tout en se débarrassant de choses comme certains produits de durabilité et de conseils qui traînent.
C'est un point honnête. Ce n'est pas un trimestre où tout était parfait. L'énergie est en difficulté, Market Intelligence se réorganise. Mais en même temps, c'est un chef d'orchestre très différent. Alors, en conclusion, S&P Global a montré qu'il peut livrer des résultats solides dans un environnement difficile. La pièce maîtresse reste les benchmarks des obligations aux indices en passant par les données énergétiques. Et l'adoption croissante de l'IA offre un nouveau vecteur de croissance qui ne fait que commencer.
Avant de finir, je dois mentionner, tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Assurez-vous de vous abonner, de nous laisser un avis, et joignez-nous la prochaine fois pour une autre ventilation d'éléments financiers. À bientôt.